Hey, c'est un plaisir d'être ici pour vrai. Ça fait quoi? Ça fait à peu près un mois qu'on est là. Je vous donne les nouvelles rapidement. Oui, on a trouvé maison. La famille Girard a choisi Charlebourg. Et c'est là qu'on habite. Dans un mois, on va prendre possession. Donc, dans un mois, et Dieu est fidèle, Dieu est bon, parce que les choses se sont déroulées tellement rapidement, tellement bien. Après une période d'attente et de stress, tout s'est découlé, déboulé en 3 jours, tout était fait. Dieu était fidèle, comme il l'est toujours. Amen. À matin, Marianne, elle a fait la louange de manière extraordinaire. Hey, où Marianne? Es-tu encore en arrière? On peut-tu applaudir Marianne pour son obéissance à Dieu? Parce que les chants de ce matin, espoir, victoire, Dieu est un refuge, c'est exactement le message que Dieu m'a mis à cœur. Et moi aussi, en temps de préparation, je n'étais pas certain du message, mais avec la louange, ça l'a confirmé à 1000%. Je ne pourrais pas apporter un message différent après avoir vécu la louange. Et moi, j'aime 2 choses que j'ai entendues ce matin. Non seulement vous entendre chanter, parce que chanter à Dieu, c'est génial, mais moi, je l'ai aimé, le petit crépitement. Il y a quelque chose qui sonne un peu comme des petites gouttes de pluie, puis ça me fait penser à la grâce de Dieu qui se découle pendant ce moment-là de communion ensemble. Moi, je trouve ça génial, le petit clic-clic. C'est génial. On y va pour le message? Vous êtes prêts? Yes, alors je conclue ce matin la série Histoire de famille avec un des personnages que je préfère dans la Bible, personnage de David. Et là, s'il y en a qui étaient ici la semaine passée, vous vous dites, Sonia, elle a déjà prêché sur David, Joe, t'es en retard, t'es pas à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Non, j'ai écouté, j'ai apprécié, je l'ai même dit à Sonia ce matin, c'est un excellent message. Je continue. Pas avec les mêmes personnes, parce que le titre, c'est « Histoire » avec un S, « Histoire de famille ». Et on sait que dans une famille, plus il y a de personnes dans la famille, plus le réseau familial grossit autour du noyau, plus il y a d'histoires potentielles à raconter. Et si je commence un peu en parlant un peu de ma famille, question de continuer à se connaître davantage, comme vous savez, je suis né en Nouvelle-Écosse. Mes parents se sont rencontrés sur la base militaire de Nouvelle-Écosse. Donc, un père militaire, une mère militaire pendant quelques temps. Ils ont eu 2 enfants, ma sœur plus vieille. Donc, moi, je suis le 2e. On a une sœur plus jeune. Donc, je suis l'enfant du milieu. Y a-t-il des enfants du milieu qui sont fiers d'être enfants du milieu? Yes! Meilleure place dans la famille. Donc, se sont rencontrés là. Ça n'a pas très bien fonctionné, le couple. Donc, après quelques temps, ma mère s'est séparée de mon père et est revenue en Outaouais. Mon père a été transporté sur la base militaire dans Alberta. Fait que je l'ai très peu vu dans ma jeunesse. Mais si je fais ça très, très court, je vais raconter très vite. En 90, j'avais 5 ans à l'époque, mon père se remarie en Alberta, ma mère se remarie en Outaouais, et quelques semaines plus tard, mon père décède avec sa nouvelle épouse d'un accident de voiture. Donc, nous, on a resté en Outaouais, et si vous faites le calcul, ma mère s'est remariée, donc j'ai eu un beau-père dans ma vie très, très jeune qui a fait figure parentale et paternelle de manière extraordinaire. Il a pris soin de nous au niveau de l'éducation, au niveau de prendre soin de nous, de la maison, la nourriture, le ménage, le lavage, ces choses-là. Il était une personne extraordinaire. On en a bénéficié d'avoir sa présence. Il a même resté quelque temps à la maison prendre soin de ma sœur plus vieille, moi, et ma mère et lui ont eu une sœur, un enfant, donc une sœur plus jeune. Et on a vécu ensemble. Et c'est une personne importante qui s'est joint, mais à plusieurs niveaux, même au niveau de la raison pourquoi je suis ici ce matin, ça part en partie de lui. Parce que lui avait un frère, donc mon oncle, était marié. Cette femme-là a décidé un jour d'aller à l'église en Outaouais, se convertit, emmène son mari, mon oncle, se convertit, emmène son frère, mon beau-père, se convertit, sa femme, ma mère, se convertit. Nous, on est là à 4 ans, 4, 5 ans. Je me rappelle encore dans les classes d'école du dimanche, où ce que c'est très frais, ça fait partie de mes mémoires, de mes souvenirs, où ce que c'est pasteur Anne Yank, qui était ma monitrice d'école du dimanche, je ne sais pas si vous connaissez, pour les femmes surtout. Donc, l'église de Jim et Anne Yank, c'est là qu'on était. Et je me rappelle que J'ai apprécié déjà les chants, je me rappelle de chanter, je me rappelle des histoires, je me rappelle de ces moments-là, mais tout a commencé par une série de personnes qui se sont passées le mot pour arriver à, justement, passant par mon père et moi. Et je dis mon père parce que, comme je disais, il nous a élevés et j'ai perdu mon père biologique jeune. Donc, si on parle de lui, je vais dire mon père, parce qu'il y a vraiment eu cette figure-là. Et fait que vous voyez un peu l'ampleur de ma famille. Ça vous va, ça vous donne une idée globale, comment est-ce qu'une famille peut avoir plusieurs personnes importantes. Et c'est ce qu'on va voir ce matin avec David, qui, vous savez, Sonia l'a mentionné, David a une très, très grande famille personnelle avec ses nombreuses femmes, ses nombreuses concubines, et où il y avait aussi sa belle famille. C'est ça qu'on va voir. On peut même mettre à l'image un arbre généalogique. Vous voyez David qui est au centre. Plusieurs femmes, plusieurs fils, il y a même Nathan et Salomon, donc en ligne directe, on voit Salomon qui a été la lignée royale. Et si on voit dans le Nouveau Testament, il y a la lignée royale qui est donnée dans la généalogie jusqu'à Jésus. Et si on voit juste à côté de Salomon, il y a Nathan qui est la lignée biologique qui se rend jusqu'à Marie. Fait que les fils de David sont les deux dans la généalogie de Jésus à deux niveaux différents. Mais vous voyez, il y a plusieurs femmes, plusieurs enfants. Et ça fait beaucoup de monde. Même en haut, on continue avec Jesse ou Isaïe en français, avec Obed, Boaz et Ruth. On voit qu'il y a une lignée qui est vraiment, vraiment importante. Chaque personne de cette famille-là aurait raison d'être racontée. Mais ce matin, je vais me concentrer un peu plus sur la belle famille de David. Donc, si vous voulez déjà préparer dans votre Bible, on peut tourner dans 1 Samuel, chapitre 17. On va commencer cette histoire-là de David avec sa première femme qui s'appelle Michal. Donc, vous me le direz quand vous êtes prêts. 1 Samuel 17. 17. J'ai-tu dit, c'est-tu, non, 17? Donc, on commence l'histoire avec, rapidement, je vais passer rapidement par rapport à l'histoire où ce que Goliath arrive, Goliath qui est un géant philistin qui là fait partie de l'armée, et il vient provoquer le peuple d'Israël, l'armée de Saül, pendant 40 jours à essayer de les défier. Et là, on voit verset 11, « Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du philistin, ils furent démoralisés et d'une grande peur s'empara d'eux. » On saute au niveau verset 23. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit, et à la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent, terrorisés. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous? » dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » Et c'est là que David vient entendre, vient se mêler, vient porter de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille, ces choses-là, entend qu'est-ce qui se passe avec Goliath et décide de combattre, même s'il n'avait pas l'expérience militaire, même s'il n'avait même pas d'armes. Il a essayé l'armure de Saül, ça ne marchait pas, fait qu'il se décide d'y aller avec sa fronde, avec quelques pierres et surtout Dieu. Sans lui, ben, ça n'aurait pas marché, mais il arrive, il va. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivé le plus dans l'histoire, C'est-tu la victoire contre quelqu'un d'imposant? C'est-tu l'idée de pouvoir marier la fille du roi? C'est-tu pour permettre à sa famille de ne plus avoir à payer d'impôts? Choisissez la raison que vous vouliez pour cette situation-là. Mais David fait ce pas de foi-là, il s'en va au combat. Et comme vous le savez, il réussit. Si on saute au verset 50 du même chapitre, chapitre 17, « Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin et le frappa et le tua. Quand David fut de retour au camp après avoir tué le Philistin, Abner, qui est le général de l'armée, le prit et le conduisit devant Saül. David tenait encore en main la tête de Philistin, du Philistin, Goliath. Quand Saül lui demanda, « De qui es-tu le fils, mon garçon? » David lui répondit, « Je suis le fils de ton serviteur, Ésaïe, de Bethléem. » C'est de même que David a eu la chance, a eu une ouverture de pouvoir rentrer dans la famille royale de Saül. Saül n'a pas mis ça super facile. Je fais un autre saut dans le temps. Samuel 18, verset 17. Ça dit, « Un jour, Saül dit à David, « Je suis prêt à te donner ma fille aînée Merab en mariage, à condition que tu me serves comme un vaillant guerrier et que tu livres les combats de l'Éternel. » Il se disait, il vaut mieux que ne soit pas moi-même qui a atteint à sa vie, mais plutôt les Philistins. Fait que déjà, comme beau-père ou comme futur beau-père, il avait déjà une idée de j'aime mieux que ce soit pas moi qui le tue, mais j'aurais le goût de. Et verset 18, David lui répondit, « Qui suis-je et que vaut ma vie? De quelle importance est la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Il y avait déjà une inquiétude à ce niveau-là. Il y avait déjà une relation qui était difficile entre David et Saül. Mais Saül voulait respecter son engagement qu'il avait donné devant tous les soldats, de toute façon. Fait qu'il permet d'avoir David, qui a terrassé Goliath, de pouvoir épouser sa fille. Saül en propose une. Finalement, il change d'idée, il la donne à quelqu'un d'autre. Ça la donne bien parce qu'il y a la fille cadette, la plus jeune, tombe en amour avec David. Probablement ses prouesses de guerrier ou sa belle chevelure, comme qui était décrite dans la Bible. Mais Michal, elle décide de vouloir le marier. Fait que Saül, il décide, bon, mais parfait, je vais lui donner. Et normalement, comme on sait à l'époque, ou dans certaines familles, il y a un aspect de la dot qu'il faut qu'il soit payé. Il y a un aspect de donner un montant estimé par les deux familles. C'est une entente qu'ils ont. Combien ça vaut par rapport à la richesse du futur époux ou la richesse de la famille de la femme ou la valeur de la famille de l'épouse. Et c'est plate parce que David n'est pas une famille riche. Pas beaucoup d'argent, mais il y a une alternative. Au lieu que ce soit des biens monétaires, financiers, il peut avoir toutes sortes de biens. Ça peut être des biens d'immobilier, ça peut être des biens de matériel, nourriture, ces choses-là. David n'a rien de ça. Fait que Saül, il trouve une super bonne idée. Encore là, dans sa bonne grâce, il décide, voici ce que tu vas faire pour payer la dot, pour avoir accès à ma fille. Va tuer, non, va pas tuer, pas obligé de les tuer, mais va chercher 100 prépuces de Philistins. David, faisant pas les choses à moitié, il décide de ne pas en ramener 100, il décide d'en ramener 200. On a une photo. Non, c'est pas vrai. Mais vous voyez l'image, là je vous l'ai mis, mais vous voyez l'image de ce qui arrive avec les 200 prépuces. Il décide, il remplit sa part de contrat et il fait ça. Verset 27, David se met en campagne avec ses hommes. Il tua 200 Philistins et remporta la totalité de leurs prépuces au roi pour devenir son gendre. Saül donna donc en mariage à David sa fille Michal. Saül vit ainsi très clairement que l'Éternel était avec David et que Michal, sa propre fille, aimait David. Sa crainte à l'égard de David redoubla et dès lors sa haine envers lui devint définitive. À partir de ce jour-là, David est devenu l'ennemi numéro un de Saül. Comme s'il n'était pas déjà, mais là, c'était définitif. Il y a un contrat sur la vie de David qui devient son gendre. Non seulement David a fait ça par élan de zèle et de foi, il a conquéri Goliath, il a eu le droit à ces choses-là, puis il se retrouve dans la famille de Saül. Le mariage entre David et Michal vient unir ces deux familles-là. Et à ce moment-là, dans le fond, Michal n'est pas la seule enfant de Saül, on le sait. Il y a Jonathan qui est dans la famille. Fait que Jonathan est connu comme étant un ami de David, mais il est devenu en même temps son beau-frère. Saül devient le beau-père, donc Jonathan devient son beau-frère. Ça amplifie toute la lourdeur de la relation qui se passe parce qu'il y a Michal qui aime David, le mari. Il y a Jonathan qui est super heureux d'avoir vu les prouesses de David sur le champ de bataille. Et c'est ça qu'on va voir dans un instant. Il y a toute cette lourdeur-là parce que Saül le déteste à travers tout ça. Mais si on parle justement un peu plus de la famille de Jonathan, la famille de Saül, on va voir à quel point c'est une famille de guerriers, hein, contrairement à David qui est berger. Il y a ses frères qui ont fait partie de l'armée de Saül, mais ce n'est pas la nature de David de se joindre dans ce groupe-là. 1 Samuel, chapitre 9. On revient un peu dans le passé pour voir la famille de Saül. Un homme de la tribu de Benjamin nommé Kish avait pour ancêtre en ligne ascendante Abiel, Tseror, Bécorath et Aphia, qui descendaient d'un Benjamite. Kish était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saül, c'était un beau jeune homme, aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui, il les dépassa tous d'une tête. Fait que de père en fils, il y a l'armée qui est là, il y a le côté d'être un guerrier qui est là. Saül n'est pas devenu roi parce qu'il le voulait, il ne l'a pas cherché. C'est arrivé parce que le peuple d'Israël voulait avoir un roi pour les diriger. Saül ne voulait tellement pas la job que quand c'était le temps de se faire présenter, après qu'il s'était fait moindre, fait qu'il savait qu'il était pour être le roi, Saül était caché parmi les bagages, il ne voulait tellement pas, Mais pas le choix, c'est lui qui a été tiré au sort, ça a été démontré devant le public pour dire c'est lui le nouveau roi, le monde sont contents, tout ça. Et après ça, il y a une série de victoires que Saül a eues. Il y avait quand même du succès, il y avait des conquêtes sur les peuples ennemis. Chapitre 11, on parle des Ammonites. Chapitre 14, on parle que même son fils, Jonathan, avait des conquêtes par rapport aux Philistins. Ensemble, ils combattent les Moabites, les Édomites, les Ammonites, les Philistins et le roi de Tsoba font partie de ceux qui sont dans leur tableau de victoire. Fait partie, c'est plusieurs peuples qu'il y a eu. Ça dit dans la version Sommaire qu'il les malmenait. La version Louis II dit qu'il était vainqueur. Malmené, pour l'armée, c'est comme plus qu'un 8-3. Là. C'est malmené à un point où que tu peux aller avec une victoire écrasante sur l'ennemi. C'est ça que Saül et Jonathan et toute la lignée ont eu. Vous me comprenez? Donc, famille de guerriers, vainqueur qui dominait sur les autres peuples, jusqu'au péché où ce que Saül a tombé, où ce qu'il n'a pas écouté les consignes que Samuel, le prophète Samuel, leur avait dit après une certaine victoire sur les Amalécites. C'est dans ce contexte-là que Jonathan a grandi. Petite gorgée d'eau. Je reviens sur le moment de la victoire de David sur Goliath. Maintenant qu'on a vu l'histoire de Saül, de Jonathan, comment ça s'est passé, on revient justement à ce moment-là où ce que David terrasse Goliath. 1 Samuel 18, donc on retourne à 1 Samuel 18. Quand David eut terminé de parler avec Saül, après la victoire toujours, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau, il le donna à David. C'est un gros signe d'appréciation, c'est un gros signe de donner un manteau d'un prince, de fils, de roi sur David. Il n'était pas dans la famille à ce moment-là. Mais il a offert son équipement, il a offert jusqu'à son épée, son arc, puis son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple ainsi que des ministres de Saül. Il y a eu cette journée-là un pacte d'amitié. Il y a eu une alliance d'amitié fraternelle entre David puis Jonathan. Jonathan savait qu'il venait de gagner un beau-frère parce que David allait marier une de ses sœurs, mais l'amitié fraternelle qu'il y a eu ce moment-là, c'est un lien affectif et moral très fort. C'est la définition d'une amitié fraternelle. C'est une amitié qui unit des personnes non apparentées par le sang, mais dont la relation est aussi profonde et confiante et solide que celle entre frères et sœurs. Ce genre d'amitié est caractérisé par la bienveillance, la solidarité, le respect mutuel. C'est un signe, c'est un lien sincère et désintéressé, donc il n'y avait pas aucun intérêt de Jonathan, c'était tout en faveur de David, qui implique généralement un soutien sûr, une confiance totale et de l'empathie, souvent basée sur des valeurs et des principes moraux communs, ainsi qu'une éthique partagée. Qui ici peut décrire, levez pas la main, mais qui ici peut décrire ce genre d'amitié-là que vous avez avec quelqu'un, avec un ami, avec un beau-frère, une belle-sœur? J'aurais même qu'à poser la question avec votre conjoint. Est-ce que vous avez toutes ces qualités-là d'une amitié fraternelle, ce lien affectif-là, une bienveillance, solidarité, respect mutuel, ces choses-là? Jonathan a éprouvé ça cette journée-là. Il a vu un potentiel en David. Il savait qu'il y avait quelque chose de particulier. Nous, on sait que c'est Dieu qui était derrière lui. Mais il y avait quelque chose qui était plus grand que juste l'homme, même l'adolescent que David était à ce moment-là. Et tout ça s'est passé sous le regard méprisant de Saül, évidemment. Et on connaît l'histoire, puis je vais la sauter, mais on connaît l'histoire à quel point David a été persécuté, Saül a été méchant, voulait même essayer de le tuer avec une lance. Ces choses-là, cherchait à le faire mourir sur les chemins de bataille, ces choses-là. Mais Jonathan a gardé toujours cette appréciation-là, cette affection qu'il avait pour David, qui était un peu plus jeune. Et un jour, quand c'était rendu trop tendu, David était rendu marié à ce moment-là, il était autour de la table du roi, il y avait des discussions qui se passaient. David savait que son temps était compté s'il restait en présence de Saül. Fait qu'il décide de quitter, mais Jonathan n'était pas certain, fait qu'il décide de valider un peu qu'est-ce qui se passe. Et chapitre 20, verset 12, ça dit ici, Jonathan dit, « Par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je te promets que demain ou après-demain, À cette heure-ci, j'essaierai de savoir quelles sont les dispositions de mon père à ton égard. Si elles te sont favorables, je te le ferai savoir. Mais si mon père veut te nuire, alors que l'Éternel me punisse très sévèrement si je ne t'en informe pas, dans ce cas, je te ferai partir et tu iras en paix. Puisse alors l'Éternel être avec toi comme il a été avec mon père. On se rappelle que Saül a été oint par le prophète Samuel. Oui, il y a le côté militaire qui existe dans la famille de Saül, Kish son père, Saül, Jonathan, etc. Mais il y avait Dieu qui était là. C'est par l'Éternel qu'il y a eu la faveur de pouvoir être le roi sur le peuple d'Israël. Donc, il y avait cette connaissance-là de Dieu. Et c'est ça que Jonathan a admiré aussi, comme je disais. Plus tard, verset 14, « Si je suis encore en vie, agis envers moi avec la bienveillance à laquelle tu t'es engagé devant l'Éternel, et si je viens à mourir, tu ne cesseras jamais d'agir avec bienveillance envers les membres de ma famille, même lorsque l'Éternel aura fait disparaître tous tes ennemis sans exception de la surface de la terre. » Ainsi, Jonathan conclut un pacte avec David et sa famille en déclarant que l'Éternel fasse payer les ennemis de David. Puis il lui fit encore une fois prêter serment au nom de l'affection qu'il lui portait, car il l'aimait comme sa propre personne. Jonathan et David, à ce moment-là, comprennent que Saül a juste une idée en tête, le faire tuer. David se sauve, et verset 42, alors Jonathan lui dit « Va en paix, puisque nous sommes engagés l'un envers l'autre par serment, le serment qu'on vient de lire, au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit garant entre toi et moi, entre tes descendants et les miens, à tout jamais. » Un pacte d'amitié, un pacte, un serment qui unit deux personnes, pas juste pour les deux, on va prendre soin l'un de l'autre, non, non. Un pacte de, dans la bienveillance que tu as envers Dieu, je veux que tu éprouves la même bienveillance envers ma descendance. Si jamais il se passe de quoi, prends soin de ma famille. C'est ça que Jonathan demande et David accepte. Même Jonathan lui fait répéter une deuxième fois ou lui fait comprendre une deuxième fois comme quoi qu'il faut que ça soit scellé, que l'Éternel soit garant entre toi et moi, entre tes descendants et les miens à tout jamais. Il se passe environ 10-15 ans après ce pacte-là. 10-15 ans où ce que David se sauve de la maison du palais de Saül, se sauve et on sait qu'il y a une poursuite, on sait qu'il y a des combats, on sait que David s'allie avec certaines tribus, certains groupes pour avoir des denrées, avoir des places à dormir, de la sécurité, ces choses-là. Mais arrive, qu'est-ce qui arrive 10-15 ans plus tard, c'est que la guerre continue évidemment. Et si on revient du côté de l'histoire de Saül, 1 Samuel, non, dernier chapitre de 1 Samuel, donc chapitre 31. Là, vous allez avoir passé la moitié du livre de 1 Samuel. Bientôt, on va aller dans 2 Samuel. Mais 1 Samuel 31 nous dit ceci, au verset 1. « Les Philistins attaquaient Israël, évidemment, encore une fois, des ennemis de toujours. Les soldats israélites s'enfuirent devant eux et beaucoup d'entre eux furent tués sur le mont Gilboa. Les Philistins s'acharnèrent sur Saül et sur ses fils et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. Dès lors, tout le combat se concentra sur Saül. Les archers le découvrirent et il en fut très terrifié. Alors, il ordonna à celui qui portait ses armes, « Dégaine ton épée et tue-moi pour que ces circoncis ne viennent pas me transpercer et me faire subir leur outrage. » Mais celui-ci refusa car il trembla de peur. Alors, Saül prit lui-même l'épée et se jeta dessus. Quand l'écuyer vit que Saül était mort, il se jeta aussi sur son arme et mourut aux côtés de son maître. Ainsi périrent ensemble le même jour. Saül, ses trois fils, dont Jonathan, l'homme qui portait ses armes et tous les hommes autour de lui. Alors que David pouvait être soulagé de savoir que celui qu'il pourchassait pendant autant d'années meurt, il n'y a plus de danger, son agresseur n'est plus, il y a quand même en lui la tristesse, la douleur d'avoir perdu des membres de sa famille. Il y a quand même eu un respect, David envers Saül et surtout David envers Jonathan. Il a même composé un chant, puis on n'aura pas le temps de le voir, mais si vous avez la possibilité cette semaine de lire dans 2 Samuel 1, il y a un cantique, il y a un éloge où ce que David va être respectueux, non pas juste avec Jonathan, comme je disais, mais avec Saül aussi. Juste le verset 23 nous dit « Saül et Jonathan, aimés et estimés, pendant toute leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Oui, vous étiez tous deux plus légers que les aigles et plus forts que les lions. Hélas, ils sont tombés, ces braves, au milieu du combat. Oui, hélas, Jonathan, il a été frappé à mort sur les collines. » Verset 26. « Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami qui m'a été si cher, ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. » Il y en a eu beaucoup. Verset 27. « Hélas, ils sont tombés tous ces vaillants guerriers. Hélas, ils ont péri ces hommes de combat. » Après tout ça, qu'est-ce qui reste de l'amitié entre Jonathan et David? Qu'est-ce qui reste du lien familial qui existait entre eux? Puis qu'est-ce qui arrive avec cette alliance-là qu'ils ont faite avant que David quitte? Je rappelle, il s'est passé à peu près 10-15 ans. Qu'est-ce qui reste? Voici. 2 Samuel, chapitre 4. Lorsque Ish-Boshet, fils de Saül, apprit qu'Abner, le chef de l'armée de Saül, était mort à Hébron, il en fut consterné et la peur s'empara de tout Israël. Verset 4. Or, Jonathan, le fils de Saül, avait un fils qui était infirme des deux pieds. En effet, il avait 5 ans au moment de la bataille de Jisréel, et lorsqu'on avait appris ce qui est arrivé à Saül et Jonathan, qui sont morts, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir, et dans sa précipitation, elle l'avait laissé tomber. Il était resté estropié. Son nom était Mephibosheth. En une seule journée, plusieurs vies ont été complètement changées. Jonathan meurt au combat. Saül est assiégé. Il se suicide. Donc, Ish-Boshet perd son frère. Il y a Ish-Boshet qui... apprenant qu'est-ce qui se passe au combat, ces choses-là, Ish-Boshet perd son père, son grand-père, se fait échapper, il perd l'usage de ses jambes, il perd sa dignité, il perd cette lignée royale-là que je vais parler dans un instant, il vit sous une menace de mort imminente à ce moment-là. En une journée, toutes ces vies-là sont changées parce que, comme je disais, traditionnellement puis historiquement, quand il y avait un roi qui était défait, qui était tué au combat, sa lignée royale, elle ne tient plus. C'est le nouveau roi qui prend possession, qui conquiert le royaume, qui devient le dirigeant. Quand on parle de royaume, si on prend le mot en anglais, royaume, c'est kingdom. Fait qu'il y a vraiment deux mots, kingdom pour king, domination. Fait qu'une domination du roi. Quand il y a un roi qui est tué, la domination, pendant qu'il est en vie, il domine sur son territoire. Quand il se fait conquérir, c'est l'autre qui prend possession, qui domine sur les sujets, qui domine sur l'armée, qui domine sur ces choses-là. Fait que toute la lignée royale, tous les acquis de Saül et sa descendance, normalement, devraient être anéantis. Le nouveau roi va vouloir conquérir, il va vouloir prendre la place, va vouloir posséder. Mais si on se rappelle de l'histoire, le nouveau roi, c'était pour être David. Donc, il y avait une question, est-ce que le peuple attendait quand même que Saül meurt d'une façon quelconque et que David était pour être le nouveau roi. Il avait été même présenté par Samuel, le même qui avait oint Saül initialement. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans la tête des gens, probablement dans le royaume au complet. Le roi est mort, donc on s'attend à ce qu'il va avoir le nouveau roi qui va être là. Le nouveau roi va dominer, il va prendre possession, il va tuer la lignée royale, puis il va le faire. C'est la différence que quand un roi se fait tuer au combat ou qui se fait assaillir de cette façon-là, versus, mettons, si un roi décède de vieillesse ou de maladie ou quoi que ce soit, ou ce qui va avoir la descendance directe. Fait que si Saül était juste mort d'une façon naturelle, il y aurait eu Jonathan qui aurait régné. Ensuite, il y aurait eu probablement son aîné. Je ne sais pas si Mephibosheth était son aîné, j'ai oublié de vérifier. Mais il y aurait eu une lignée, il y aurait été une descendance, un peu comme qu'on a avec en Angleterre avec la reine Élisabeth. Quand elle est décédée, il y a eu le roi Charles. On s'attend à ce que le prince William continue, George ensuite, etc. Mais là, ce n'est pas ça qui se passe. Évidemment, Saül meurt au combat en plus. Il y a une lignée royale qui ne tient plus à rien. Et c'est là que l'alliance que Jonathan et David va venir jouer un rôle vraiment important. Quand que David prend position dans son royaume, dans le chapitre 9 de 2 Samuel, David fait ce geste qui est complètement contre nature et contre tradition. Verset 1. David demanda, « Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. » Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda, « Es-tu bien, Tsiba? » Il lui répondit, « C'est moi, ton serviteur. » Puis le roi lui posa la question, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur, comme je l'ai promis devant Dieu. » Tsiba lui répondit, « Il existe encore un fils de Jonathan qui a les deux jambes estropiées. » « Où vit-il? » lui demanda le roi. Tsiba répondit, « Dans la maison de Makir, un fils d'Amiel, à l'autre bord. » Mephibosheth vit l'autre bord, et j'ai entendu l'autre bord, il vit l'autre bord. L'autre bord du Jourdain, probablement. Il vit l'autre bord, loin, dans un lieu désert. L'autre bord veut littéralement dire ça. Lieu désert, c'est une place aride, sans pâturage. C'est un lieu de tristesse, de misère, de douleur, de solitude, de désespoir. Place de choix pour une personne qui ne peut plus marcher, qui a perdu son père, a perdu son grand-père, a perdu toute espérance, a perdu dignité. Place de choix pour quelqu'un qui le sait que sa vie ne tient plus à grand-chose. Mais le roi, verset 5, David l'envoya donc chercher à l'autre bord dans la maison de Makir. Et lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela « Mephibosheth ». « C'est bien moi pour te servir », répondit Mephibosheth. Et David lui dit, « N'aie aucune crainte. » N'aie aucune crainte parce que normalement, Mephibosheth, qui a été trouvé l'autre bord, aurait sûrement dû à subir la mort. Parce que, encore une fois, le nouveau roi devrait détruire la lignée royale. Fait qu'il y a une crainte évidente et naturelle de la part de Mephibosheth. Mais David lui dit, « N'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. » Reprendre possession des terres. « Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. » Mephibosheth se prosterna de nouveau et dit, « Qu'est-ce donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. » Le roi appela Tsiba, le domestique de Saül, et lui dit, « Tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui et tu lui apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Mephibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, lui a ordonné. Ainsi, Mephibosheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un fils nommé Mica. Tous ceux qui demeuraient chez Tsiba étaient à son service. Comme il était estropié des deux pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. » Quelle restauration de la part de la vie, de l'espérance, du genre, le peu que Mephibosheth pouvait espérer, c'était hey, « si on ne me trouve pas, je vais vivre ma vie tranquille. » Mais à l'inverse, il se fait demander d'aller au palais du roi. Il se fait dire que non seulement tu vas rester en vie, non seulement on va te redonner des terres qui appartenaient à ton grand-père, qui n'avait probablement jamais vu ou bénéficié. Il y avait 5 ans quand son grand-père est mort puis il fallut qu'il se sauve. Mais en plus, il va aller à la table du roi, il va aller manger avec le roi à tous les jours. Il va pouvoir en bénéficier. Et il y a certains commentateurs qui osent même imager cette histoire-là où ce que, étant donné qu'il était estropié des jambes, il ne pouvait pas bien marcher, il y avait une question de manger à la table du roi. On sait qu'avec les grandes tables, il y a les grandes nappes, il y a quelque chose où ce que, une fois assis, on ne voit plus les pieds. On voit juste ce qui apparaît, donc le haut du corps, la tête, ces choses-là. Et ça lui redonnait aussi une place à la table du roi, ça lui donnerait une notoriété, ça lui donnait une dignité, quelque chose où ce qui était tout l'inverse de ce qu'il s'attendait à avoir pour le restant de sa vie. Et quand je dis le restant de sa vie, je dis ça parce qu'on fait un saut, je fais beaucoup de sauts, mais 10-15 ans plus tard, encore une fois, il y a une discussion stratégique qui se passe entre David et les Gabaonites. Verset 3 du chapitre 21. David demanda aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Comment pourrais-je expier le mal que vous avez subi afin que vous bénissiez le peuple qui appartient à l'Éternel? » Verset 5. Ils répondirent au roi, « Cet homme, on parle de Saül, voulait nous exterminer, il avait projeté de nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Livre-nous donc 7 de ses descendants, et nous les prendrons devant l'Éternel à Gilbéa, où résidait Saül, l'élu de Dieu. Le roi déclara, je vous les livrerai, verset 7, mais le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, à cause du pacte qu'il avait conclu par serment au nom de l'Éternel avec Jonathan. » Même quand il y a une discussion stratégique, militaire, une question de discuter comment est-ce qu'on va gérer les territoires, qu'on va gérer les espaces, David continue de respecter son pacte, son engagement avec Jonathan et garde encore Mephibosheth vivant. Toute cette histoire-là nous dit quoi? Nous dit que c'est possible qu'une personne puisse avoir de la bienveillance pour quelqu'un alors qu'elle ne mérite pas. Mais c'est possible que ce qu'une personne est appelée à vivre, qui est destinée à vivre, peut complètement s'arrêter par la décision d'une personne. Mephibosheth avait, comme j'ai dit, un avenir sans issue. Il vivait dans une terre où il n'y avait rien qui poussait. Il y avait de la solitude, il n'y avait rien devant lui qui pouvait lui donner un espoir quelconque. David, par obéissance envers Dieu, est allé conquérir un géant. Par obéissance à Dieu, il est allé faire ce qu'il lui demandait. Et il est arrivé sur le chemin de Jonathan. Et un pacte qu'il y a eu entre lui puis David, parce que Jonathan voyait en lui qu'il servait Dieu. Il y avait quelque chose de concret, il y avait quelque chose de vrai en David. Il voyait qu'il y avait une possibilité de mettre entre ses mains un avenir pour sa descendance, même sans savoir ce qui était pour se passer par la suite. Jonathan a fait ce geste-là de foi, et David l'a respecté par amitié réelle envers Jonathan. Cette histoire-là, c'est un véritable reflet de ce que Dieu a fait pour nous, en nous démontrant son amour, démontrant la même bienveillance, la même grâce, en envoyant son Fils sur la croix. Et ce matin, c'était un rappel de ça avec la communion. Il y a un geste qui a été posé, et Dieu veut complètement changer qu'est-ce que nos pensées, qu'est-ce qu'on s'est fait dire dans le passé, qu'est-ce qu'on a cru dans le passé. Tout ça peut être changé parce qu'on peut s'appuyer sur le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Tout peut changer parce que Dieu l'a voulu ainsi. David a offert une place à sa table, à la table en étant roi, et de manière permanente, pas juste une période de probation. On va voir comment que ça se passe avec le gars. Puis si ça donne du trouble dans le royaume, bien, on s'arrangera pour le refaire tasser. Non, non. Tous les jours, il vient manger à la table. Dieu nous offre aussi qu'on puisse être à sa table. Il nous offre de nous donner de l'aide sur cette terre ici, mais il nous offre aussi une résidence au ciel, alors qu'on n'a aucune raison de penser même qu'on le mérite. Parce qu'on ne le mérite pas. On n'a rien qu'on peut faire, il n'y a rien qu'on a pu faire avant, qu'on peut faire aujourd'hui, on va pouvoir faire demain pour mériter cette place-là, mais Dieu nous le donne de manière totalement gratuite, selon sa grâce et sa miséricorde. David a restauré l'héritage familial, financier et territorial de Mephibosheth. David a redonné à Mephibosheth ce qu'il n'avait même plus droit parce que son grand-père a fait des fautes. Il est allé jusqu'à s'enlever la vie, mais David, il ne continue pas dans cette tradition-là. Il offre une nouvelle chance à Mephibosheth de vivre et de vivre dans la dignité. David n'a pas laissé les erreurs de son beau-père affecter la vie de son neveu, mais il l'a stoppé. Il a stoppé l'arrêt de mort que Mephibosheth avait, et par alliance avec Jonathan, il a permis un futur et un avenir inespéré. Ce qui a été brisé dans le passé, l'alliance le restaure. Et frères et sœurs, ce que Satan a fait dans nos vies, tout ce qu'il a fait dans notre passé, dans ma vie, dans ta vie, Jésus le restaure parce que notre Père a fait une alliance avec nous, de nous donner une vie différente de ce qu'on s'attend. Sa grâce ne dépend pas de nos conditions dans lesquelles on vit, ça ne dépend pas de l'état qu'on est, ça ne dépend pas de notre passé, mais seulement de l'alliance que Dieu a faite. Dieu est grâce et miséricorde. Et si David a protégé Mephibosheth du début jusqu'à la fin de sa vie, pourquoi est-ce que Dieu nous abandonnerait en cours de route? Dieu veut nous donner un avenir sous sa grâce et sa miséricorde. Dieu nous invite à manger à sa table à tous les jours. Dieu nous invite à passer de l'anonymat à l'approbation, de passer de la honte à l'honneur, de passer du manquement dans nos vies à une plénitude. Dieu nous invite de passer de la mort à la vie. Et ce matin, Dieu veut restaurer ce qui a été perdu, ce qui a été volé ou ce qui a été détruit par l'ennemi. Les mensonges du passé ne sont pas la réalité, frères et sœurs. Jésus est la vérité et c'est celle qu'on doit écouter et croire. Il y a une illustration, ce que je suis tombé dessus la semaine passée pendant que je préparais le message. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, je veux faire attention parce que je le sais que ce n'est pas 100% confirmé. Il y a une question de légende, mais l'image, elle est trop puissante que je ne pouvais pas passer à côté. On peut mettre à l'écran le tableau qui a été fait par Moritz Retschek. Je ne sais pas son nom, Moritz Retschek. Le tableau s'appelle Checkmate. L'histoire raconte qu'un jour, un homme se promenait dans un musée. Il y avait une visite dans un musée. C'est un tableau du 19e siècle. Il y avait un homme, se promène, fait la visite et s'arrête devant ce tableau-là. Et la guide qui est avec le groupe réalise qu'il y a un homme qui est resté derrière, qui regarde le tableau. Puis il le regarde avec beaucoup d'intérêt. Et la dame, la guide, vient voir, demander au monsieur, pourquoi ce tableau-là vous intrigue plus que d'autres choses? Il dit, ben c'est parce que moi, je suis champion mondial d'échecs. Et j'aime les échecs. Et quand je m'arrête vers ce tableau-là, ce qui s'appelle checkmate, ce que je constate, c'est, et on voit l'image, à gauche, c'est représenté par Satan, à droite, c'est représenté par un homme et un ange entre les deux qui regardent. Et il y a un constat de découragement à droite. Il ne se passe rien parce que, normalement, Satan vient faire checkmate, échec et mat. Il y a une déception parce qu'il y a un constat qui est là. Et le champion d'échecs regarde et dit, bien, il y a un problème avec le tableau, c'est parce que si on regarde les pièces, le roi peut encore bouger. À l'image de ce tableau-là, dans votre vie, peu importe les mensonges que Satan vous a dit, sachez que notre roi aura toujours encore un mouvement à faire. Même si Satan vous dit que vous êtes échec et mat, si vous avez une étiquette d'échec, une étiquette que c'est la fin, que ce soit financière, que ce soit dans votre santé, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans votre travail, sachez que Jésus aura toujours la possibilité de faire un move de plus dans votre vie, en votre faveur. Il y aura toujours une option de jouer un autre coup. 1 Pierre 5,10 nous dit, « Le Dieu de toute grâce, et je demandais à l'équipe de louange de s'avancer. 1 Pierre 5,10 nous dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert, que vous aurez souffert un peu de temps, vous rétablira. » D'autres versions vous disent, « Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Dieu, dans sa grâce, va vous placer, va vous donner ce que vous avez besoin, même s'il sait que vous avez souffert pendant un certain temps. Mephibosheth a souffert pendant plusieurs années dans une terre vouée à rien d'autre que l'échec, que la honte, que le mépris. Et la même chose, la grâce de Dieu est encore disponible. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. En retournant à la table du roi, Mephibosheth est maintenant considéré par David comme l'un de ses fils. Il n'était plus juste un neveu, il était un de ses fils. Et de la même façon, en plaçant notre confiance en Jésus, par le sacrifice qu'il a fait à la croix, nous sommes adoptés par Dieu comme ses propres enfants. Il nous a promis qu'il prendrait soin de nous dans sa bonté souveraine. La preuve, 1 Jean 3:1 nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Romains 8, 16, 17 nous dit, « L'Esprit lui-même rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » On a accès à le même héritage que Jésus, parce qu'on est co-héritiers. Je vous demande de vous lever ce matin. Et avec cet exemple de grâce que David a fait, avec cet exemple de grâce que Dieu a pour chacun de nous, je vous demande de réfléchir, premièrement, à quel moment vous avez accepté des mensonges de l'ennemi qui vous ont mis un frein, qui vous ont mis une pensée où ce que il n'y a plus rien de possible. Ce que j'ai cru qui était pour moi un bel avenir, ça vient de s'arrêter, je ne peux plus rien faire. J'ai perdu mes points de repère, j'ai perdu les ressources, j'ai perdu espoir. Et en étant conscient de ces mensonges-là, on peut, dans le nom de Jésus, complètement les briser, enlever ces étiquettes-là, enlever ces faux raisonnements-là et de croire que Dieu, que Jésus, que le roi des rois a encore un move qu'il peut faire. Si vous avez ce matin compris quelque chose de différent. Vous avez compris que votre situation n'est pas une finalité. Je vous demande tout simplement d'élever la main vers, d'élever vos deux mains vers le ciel, vers Dieu, vers votre Père. Et juste de lui dire à quel point vous réalisez que c'est lui qui vous donne l'espoir, que c'est lui qui vous donne la possibilité de voir aujourd'hui et de voir demain d'une façon différente parce que vous êtes conscient de sa grâce, vous êtes conscient de sa miséricorde, vous êtes conscient de son amour. Et ça, frères et sœurs, ça n'a aucun prix. On ne peut pas le mériter. Il y a juste Dieu qui peut nous donner ça. Alors, pendant que vous avez les mains vers Dieu, je veux prier pour vous. Seigneur Dieu, merci pour cette grâce. Merci pour cet amour que tu nous démontres encore une fois ce matin avec l'histoire de la famille de David, sa belle famille. Seigneur, on fait partie de ta famille et merci pour chacun de mes frères et de mes sœurs ici. Merci d'être notre papa. Merci de prendre soin de nous dans les moments difficiles. Merci de prendre soin de nous dans les moments qui sont plus faciles. Merci de nous donner cet espoir-là. Merci de nous donner ce lendemain qui est possible. Merci d'être notre refuge. Merci d'être notre espoir. Merci de nous donner la victoire dans les temps qui sont difficiles, dans les épreuves qu'on fait face. Merci de nous donner cette victoire-là. Merci de nous considérer, de nous compter parmi tes enfants. Merci de nous restaurer notre héritage qu'on pensait perdu, que Satan est venu nous enlever, mais qu'il est possible de la reprendre parce que tu restaures. Seigneur, je te prie d'agir dans nos vies. Restaure nos relations avec toi. Aide-nous à nous tourner plus facilement vers toi. Restaure nos relations familiales aussi. Que les blessures du passé avec nos parents, avec nos frères, sœurs, avec nos enfants, notre belle famille, oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, beaux-parents, grands-parents. Seigneur, que nos histoires de famille du futur racontent à quel point tu as été présent et à quel point tu as fait grâce. Merci pour la restauration dans nos vies. Et c'est dans ton nom précieux que j'ai prié avec joie, reconnaissance, que tu vas agir encore une fois. Amen.